Un jeune étudiant en master de mathématiques, en quête d'un sujet de thèse, faisant le tour des spécialistes, tout impressionné. C'était moi, il y a presque 3 décennies. Je me souviens de la première rencontre avec mon futur directeur de thèse, le célèbre mathématicien Pierre Louis-Lyons. Il m'avait parlé de l'équation de Boltzmann, évoqué telle ou telle question qui ferait un bon point de départ. Et peut-être, au bout d'une année, commencerai-je à maîtriser assez cette équation pour passer à des questions plus délicates. Je ne comprenais pas.
Saison 1. Mettre le monde en équation.
Comment pouvait-on passer une année entière à étudier une équation ? Elle était là en face de moi. Elle avait plus d'un siècle. Il ne s'agissait ni d'en écrire une nouvelle, ni de résoudre celle-ci.
Épisode 3. L'erreur féconde de Henri Poincaré.
Ah, le début de thèse. Le vrai plongeon dans l'inconnu. Le premier moment où l'on vous demande de réfléchir à une question scientifique dont nul n'a la solution. Et qui pourtant semble juste une goutte d'eau dans un océan d'obscurité. Après quelques mois à creuser le sujet, j'étais tombé amoureux de l'équation de Boltzmann. De son histoire, de son sens, de ses mystères, de sa beauté. L'équation de Boltzmann, c'est la confluence entre la mécanique des fluides, la théorie atomique de la matière et la théorie de l'information. Elle naît entre 1866 et 1872 dans une vertigineuse partie de ping-pong entre 2 immenses physiciens. L'un plane très haut au-dessus des êtres, c'est le timide et génial britannique James Clerk Maxwell, l'homme qui a tout changé à la physique, selon le mot d'Einstein. L'autre est un guerrier, amateur de joutes oratoires, célèbre dans tout le monde germanique pour la puissance et la limpidité de ses cours, c'est l'Autrichien Ludwig Boltzmann. Ensemble, ils ont écrit les équations prédisant l'évolution de la distribution statistique des positions et vitesses des molécules, disons des particules, dans un gaz. L'approche remonte encore une fois à un représentant de la dynastie Bernoulli. En particulier, la pression exercée par un gaz sur une paroi est la résultante de tous les chocs des particules sur cette paroi. Boltzmann insère cette équation dans le lit de la toute jeune thermodynamique, la science des échanges de chaleur et d'énergie. Il fournit une interprétation statistique de la mystérieuse entropie introduite par Clausius pour caractériser la capacité d'un gaz à changer d'état. Pour Boltzmann, l'entropie, c'est, en gros, le nombre de configurations microscopiques qui peuvent correspondre à l'état observé. Par un raisonnement d'inspiration mathématique, il montre que cette quantité ne peut qu'augmenter au fur et à mesure que le temps passe. Il y retrouve l'irréversible flèche du temps, l'existence d'un avant et d'un après, les liens entre théorie des probabilités et structure atomique de la matière, des sujets qui feront débat pendant plus de 100 ans après lui. Et le plus extraordinaire peut-être, ces avancées de géants ont été accomplies bien avant l'observation des atomes. Ce n'est pas parce qu'on a observé les atomes et les molécules que l'on a pu écrire les équations qui régissent leur évolution. Au contraire, c'est parce que l'on a pu écrire ces équations en pariant sur l'existence des atomes et en comparant les prédictions avec la réalité expérimentale que l'on s'est convaincu que les atomes existaient bel et bien. Quelques années après la mort tragique de Boltzmann en 1906, l'existence des atomes n'est plus la lubie de quelques audacieux, mais un consensus scientifique qui a ouvert 1000 possibles et tout autant de questions. C'est une belle histoire, mais cela ne me disait pas comment j'allais occuper mon temps en compagnie de l'équation de Boltzmann. Pour le comprendre, il faut faire un détour auprès d'un contemporain de Boltzmann, un autre géant, le français Henri Poincaré. Né en 1854, c'est le mathématicien le plus accompli de son temps. En fait, c'est le dernier mathématicien universel. Il établit les équations de la relativité restreinte dont Einstein fera le meilleur usage. Ses ouvrages de philosophie des sciences connaîtront un incroyable succès. Voici l'une de ses célèbres maximes.
Le savant doit ordonner. On fait la science avec des faits comme on fait une maison avec des pierres. Mais une accumulation de faits n'est pas plus une science. Qu'un tas de pierres n'est une maison.
Et en effet, il faut ordonner les équations différentielles, comprendre leurs propriétés en fonction de leur forme, établir des méthodes générales qui fourniront de précieuses informations, même quand on ne sait pas résoudre les équations. Poincaré a bien connu cela au début de sa carrière, dans une aventure rocambolesque, le problème des trois corps, l'une des plus célèbres erreurs de l'histoire des sciences. Nous sommes en 1885 et Poincaré est alors un jeune trentenaire prometteur bien en vue. Il concourt pour un grand prix offert par le roi Oscar II de Suède, inspiré par le très influent mathématicien suédois Gustav Mittag-Leffler. Un prix qui traitait, vous l'avez deviné, d'équations différentielles. Et plus précisément des équations de la gravitation. La gravitation universelle de Newton, on l'a déjà rencontrée. Deux corps s'attirent l'un l'autre proportionnellement au produit de leur masse divisé par le carré de leur distance. Et si l'on considère deux corps dans un univers par ailleurs vide, disons le Soleil et la Terre, en faisant abstraction de tout le reste de l'univers, alors on sait résoudre cette équation. On trouve que la Terre décrit une superbe ellipse autour du Soleil, comme l'avait découvert Kepler. Mais maintenant, imaginez trois corps. Disons que l'on considère la Terre, le Soleil et Jupiter. Que va-t-il se passer ? Jupiter perturbe la trajectoire de la Terre et réciproquement. Ce ne sont plus des ellipses, ce ne sont plus des trajectoires périodiques. Est-ce que le mouvement sera stable, régulier ou imprédictible ? C'est une version simplifiée du problème de stabilité du système solaire posé par Newton. Même si l'on considère la masse de la Terre comme négligeable face à celle de Jupiter, cela reste d'une incroyable difficulté. Il est impossible de résoudre le problème exactement. Alors Poincaré reformule les questions. Il étudie la géométrie d'un ensemble de solutions. Il démontre la stabilité sans calculer les solutions. Les résultats et les méthodes sont révolutionnaires. Il gagne le prix haut la main. Et pourtant, le destin malicieux va s'en mêler. Il faut quelques mois à Poincaré pour digérer pleinement les nombreuses observations effectuées par le très soigneux lecteur Lars Fragmén. Après tout, Poincaré est réputé pour son style peu rigoureux, presque autant que pour ses éclairs de génie foudroyants. Mais là, il doit se rendre à l'évidence. Ce n'est pas une petite erreur de raisonnement ou de rédaction. Fragmén a levé un gros lièvre. En fait, tout est faux dans l'article de Poincaré. J'exagère, bien sûr. Les raisonnements, les techniques sont puissantes. Mais à un moment clé, il a étudié l'intersection de deux courbes qui représentent l'état du système, respectivement dans le lointain passé et dans le lointain futur. Et son intuition géométrique, l'analogie avec d'autres problèmes voisins, l'a amené trop vite à la conclusion que les deux courbes sont confondues. Ainsi va la vie en mathématiques. Une seule étape fausse dans la démonstration peut suffire à mettre à bas tout l'édifice. Catastrophe ! L'éditeur Mittag-Leffler parvient à récupérer tous les exemplaires publiés. Ouf ! Et maintenant, le génial Poincaré, malgré la pression et la confusion, parvient à tout réparer. Mieux encore, cette maudite figure d'intersection qu'il a bernée, elle s'avère porteuse de sens, elle. Plus subtile et fine qu'une dentelle. Les deux courbes se croisant une infinité de fois en se repliant sur elles-mêmes sans jamais se recouper.
On sera frappé de la complexité de cette figure que je ne cherche même pas à tracer.
Cette instabilité inattendue découverte par Henri Poincaré, on l'appelle couramment « effet papillon ». Parfois, un système est si sensible qu'il est impossible de le prédire exactement. Peut-être qu'un battement d'ailes de papillon, quelque part en Bretagne, entraînera par une réaction en chaîne une tempête au Brésil, quelques semaines plus tard. Et le plan de Poincaré, lui, continue de plus belle. On classe et ordonne les équations différentielles, selon leurs liens de parenté, leurs propriétés, et à chaque type d'équation, les outils appropriés pour étudier les propriétés des solutions, comme leur régularité ou leur stabilité. Mais au fait, me direz-vous, si on ne sait pas calculer les solutions, comment sait-on qu'elles existent ? La question semble saugrenue, mais ce n'est pas parce que vous écrivez une équation qu'il y a des solutions. Par exemple, il n'existe aucun nombre réel x, solution de l'équation x² plus 1 égale 0. En fait, prouver l'existence de solutions, c'est une affaire très sérieuse. Il y a par exemple le théorème de Cauchy-Kovalevskaya. Étrange attelage. Né à Paris en 1789, Augustin-Louis Cauchy était un austère royaliste qui toute sa vie refusa allégeance à la République et se distingua par la grande rigueur de son analyse mathématique. Ainsi, c'est lui qui propose la première définition rigoureuse d'un nombre réel.
Un nombre réel est la limite d'une suite convergente de nombres rationnels.
Quant à Sofia Kovalevskaya, née à Moscou en 1850, c'était une révolutionnaire dans l'âme, nous dirions aujourd'hui anarchiste. Venue à Berlin suivre les cours du grand maître Karl Weierstrass, elle l'a convaincue par son talent de lui donner des cours particuliers alors que l'université est fermée aux femmes. Repérée par Mita Gleffler, qui a décidément du talent pour cela, elle obtient un poste en Suède. Un exploit dans une société qui juge que la place d'une femme est devant un fourneau ou un berceau. L'un de ses travaux magistraux adapte les méthodes de Cauchy pour montrer que toute équation de prédiction, très régulière, admet une solution, au moins pour une petite durée, sous forme de somme de polynômes. Et aujourd'hui, dans tous les départements de mathématiques du monde, on enseigne la théorie de Cauchy-Kovalevskaya qui allie pour l'éternité deux personnages si différents, le baron Cauchy et la nihiliste Kovalevskaya. Moi-même, encore cette année, dans mon cours de master, j'expliquais à mes élèves comment cette méthode fournit une brique dans la démonstration du théorème de Landford, l'un des plus importants résultats en physique statistique, montrant que les distributions statistiques de molécules qui s'entrechoquent sont approximativement régies, au moins pendant un petit intervalle de temps, par les solutions de l'équation de Boltzmann. On pourrait continuer des jours et des semaines à parler des aventuriers qui attaquèrent, l'une après l'autre, les équations de la prédiction mathématique pour en extraire des secrets sans jamais calculer la moindre solution. Les hauts faits d'armes des Turing, Nash, DeGiorgi, Perelman, dont les avancées ont bouleversé la science. Et moi dans tout cela ? Je vous dirai juste qu'avec quelques collaborateurs comme Laurent Desvillettes, Giuseppe Toscani, Clément Mouhot, j'ai pu établir de nouvelles propriétés qualitatives sur la stabilité des solutions des équations de Boltzmann et de Vlasov-Poisson. Théorème de Mouhot-Villani, je vous le livre brut, n'essayez pas de comprendre, c'est en bon français, mais destiné aux spécialistes. Soit l'équation d'évolution de Vlasov-Poisson en dimension arbitraire avec conditions aux limites périodiques. Alors, pour toute distribution initiale de classe analytique suffisamment proche d'un équilibre homogène stable, le champ moyen engendré par la solution converge exponentiellement vite vers zéro. Et du point de vue physique, ça veut dire quoi ? Préparez un plasma dans votre laboratoire. C'est un état de la matière où les électrons sont séparés des noyaux. Appliquez un petit champ électrique et mesurez le champ électrique ensuite. Vous le verrez osciller et très vite s'atténuer jusqu'à devenir indétectable. Ce phénomène, appelé amortissement Landau, est connu depuis les années 30. Mais le théorème précédent en est un reflet mathématique, avec hypothèses et conclusions précisément formulées et un raisonnement complexe, source de nouvelles intuitions physiques. Mais cela ne peut suffire. Que répondre à l'ingénieur, à la personne curieuse qui vous demande une prédiction quantitative ? La date d'un refroidissement de l'atmosphère ou d'une collision entre planètes ? Parce que vous avez besoin d'utiliser l'équation pour fabriquer une fusée ou un accélérateur de particules ? Et qu'il vous faut des résultats précis, quantitatifs ? Et ce n'est pas un nouveau génie qui apportera la solution. C'est une invention de génie. Les ordinateurs. Mais ça, c'est pour le prochain épisode.